Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour.
Un conseil municipal à huis clos retransmis sur les réseaux sociaux. Le ministre Gérald Darmanin a été élu maire de Tourcoing. C'est l'exemple le plus emblématique de la reprise de la vie politique municipale ce samedi, plus de 2 mois après le premier tour. C'est la reprise aussi des cérémonies religieuses ce week-end après le décret qui les autorise, publié dans la nuit. De premières messes ont pu être célébrées ce matin. Les mosquées ne seront pas prêtes en revanche pour la rupture du jeûne demain. Dans ce journal également, l'obligation faite à AXA d'indemniser un restaurateur pour ses pertes d'exploitation, une brèche favorable pour tous les professionnels. Plus d'un quart des Français toujours hostiles au vaccin, y compris à un éventuel futur vaccin contre le Covid-19. Et puis le rendez-vous du samedi 13h avec les candidats au prix du livre Inter aujourd'hui. Julia Deck pour Propriété privée, publiée aux éditions de Minuit. Enfin la météo, des températures en baisse ce samedi, mais qui remonteront dès demain. Les éclaircies reviennent progressivement au nord de la Loire.
France Inter.
En attendant le second tour des municipales fixé au 28 juin, c'est le premier tour et demi qui se tient aujourd'hui dans les 30 000 communes où tout était joué dès le soir du 15 mars. Les conseils municipaux élus au premier tour choisissent le premier magistrat de leur commune. À Tourcoing, ce sera donc Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui retrouve le siège qu'il avait occupé de 2014 à 2017 en s'affranchissant au passage de la règle non écrite selon laquelle on ne peut être au gouvernement et à la tête d'un exécutif local. Pour lui, manifestement, Emmanuel Macron a choisi de faire une exception. Quoi qu'il en soit, Maxence Lambrecq, crise sanitaire oblige, c'est un nouveau genre de conseil municipal auquel vous avez assisté.
Comme le veut la tradition, c'est le doyen du conseil municipal qui préside cette séance et il oublie d'emblée quelqu'un du premier rang.
Désolé, mais les masques effectivement, et je n'ai pas salué le président de région.
Xavier Bertrand, parrain de Gérald Darmanin en politique, est en effet l'un des seuls à porter un masque avec l'élu RN et le député de la circonscription. Au départ, les élus sont même côte à côte heureux de se retrouver dans le hall de l'hôtel de ville. Puis chacun rejoint sa chaise à bonne distance pour l'élection, sans suspense. Avec 60% des voix au premier tour, le ministre a 46 élus, l'opposition 7. L'abstention avait atteint 75%.
Monsieur Darmanin est élu maire de Tourcoing.
Il avait cédé son fauteuil en septembre 2017, quelques mois après son arrivée à Bercy, mais n'entend pas aujourd'hui démissionner du gouvernement.
Je ne toucherai évidemment pas mes indemnités de maire si je continue effectivement à être en situation de cumul. Et je verserai l'équivalent de l'indemnité de maire chaque mois à la Société protectrice des animaux.
Un cadeau à la SPA pour éviter une polémique, puis un avertissement.
Le conseil municipal sera, comme il a été pendant 6 ans, un lieu de démocratie où la politique nationale n'aura pas sa place.
Difficile à imaginer, ses opposants dénoncent déjà cette double casquette. Lui promet un grand débat à partir de septembre pour imaginer la ville d'après et évite soigneusement les interviews à la sortie. Tourcoing, Maxence Lambrecq, France Inter.
Et le second tour des municipales aura donc eu le 28 juin. Après l'annonce du Premier ministre, chacun son point de vue. Dernier en date, celui de Jean-Christophe Lagarde, président des centristes de l'UDI. Pour lui, ce n'est pas sanitairement raisonnable et c'est démocratiquement aberrant. Ce n'est pas la date du 28 en elle-même qui pose problème. C'est la campagne électorale qui précède. Prier en toute sécurité, ce devrait être possible dès ce week-end dans de nombreux lieux de culte. Ceux qui auront eu le temps de mettre en place les aménagements nécessaires. Après l'arrêt du Conseil d'État ordonnant au gouvernement de lever l'interdiction des cérémonies. Le ministère de l'Intérieur et les représentants des cultes se sont mis d'accord. Le décret a été publié dans la nuit. Et dès ce matin, de premières messes ont pu être célébrées, comme à l'église de Saint-Germain-des-Prés, Julie Pietri.
Oui, cette église construite dès le 6e siècle n'avait sans doute jamais vu une telle organisation. Flèche de circulation au sol, fixée avec du scotch, gel hydroalcoolique à l'entrée, masque obligatoire et des panneaux à interdiction de s'asseoir sur une partie des chaises. Le curé ici, c'est le père Antoine de Folleville.
Il ne faut pas être imprudent. Nous avons suffisamment anticipé, nous sommes prêts, nous avons une équipe de prêtres nombreuses, nous avons beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés. De sorte que dès maintenant, nous sommes prêts à accueillir les fidèles qui vont arriver dans quelques instants maintenant. Normalement, nous avons une église qui accueille environ 800 chaises et pour permettre de respecter la consigne des 4 mètres carrés par personne, nous avons été obligés d'en condamner beaucoup. Il n'y a que 3 personnes qui peuvent s'asseoir sur un rang de 8 normalement.
Ces fidèles, il les attend en fait surtout demain pour la messe du dimanche, mais une quinzaine d'entre eux sont venus dès aujourd'hui se rassembler dans une petite chapelle, dont Marin, habitant du quartier de 27 ans.
Demain, c'est la grande journée, mais le décret, par chance, est sorti dès ce matin et donc on n'attend pas plus d'une minute. Et parce que c'est une grande joie, ça fait 3 mois qu'on n'a pas pu avoir l'Eucharistie. Et donc c'est pour ça qu'on dit les églises sont ouvertes. bah moi je fonce directement à la première minute, sans plus attendre. Même s'il n'y avait pas eu de messe, je serais venu ici prier dans les premiers rangs de l'église.
Le diocèse de Paris, comme la Conférence des évêques de France, précise que bien sûr, toutes les églises ne sont pas en mesure de célébrer la messe dès aujourd'hui.
Julie Pietri à Saint-Germain-des-Prés avec Éric Audra. Pas sûr, en revanche, que les mosquées seront rouvertes pour la fête de la rupture du jeûne. L'Aïd el-Fitr qui marque la fin du ramadan et qui doit être célébrée demain par de grandes prières collectives. On n'a pas le temps de préparer cette grande prière, a notamment expliqué ce matin le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Les cérémonies religieuses reprennent, le déconfinement se poursuit. On attend en fin de semaine prochaine de nouvelles annonces pour les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. Et ensuite, il faudra refaire l'histoire et dresser le bilan de cette crise sanitaire dont la gestion devra être étudiée. De nombreuses plaintes ont déjà été déposées au pénal contre le gouvernement. Ce matin, trois avocats demandent que les plaintes portant sur la situation dans les EHPAD soient regroupées auprès d'un même pôle d'instruction. Parmi eux, Maître Ruhlmann.
On voit qu'il y a effectivement, de manière potentielle, un nombre considérable de dossiers à travailler, à étudier, à solutionner. Nous pensons que ce type de procédure sera de nature à mieux faire la lumière sur ce que l'on peut appeler un vrai scandale des EHPAD, qui a vu d'innombrables résidents décédés à la fois dans le silence, dans la solitude, dans le dénuement et dans l'angoisse, et toutes les conséquences qu'on a vues ensuite, c'est-à-dire la maladie des soignants, la pauvreté en personnel souvent, et le fait que ces pauvres résidents ont été littéralement abandonnés à leur sort, sans avoir d'informations sur ce qui se passait à l'extérieur ou des informations très faibles. Il faut que la lumière soit faite.
C'est une véritable brèche dans le système des assurances. La condamnation de l'assureur AXA à indemniser un restaurateur pour la perte de son chiffre d'affaires pourrait ouvrir de nouveaux horizons à toute la profession. C'est du moins ce que veulent espérer ses représentants, sans trop s'emballer non plus. D'abord parce qu'AXA a fait appel de la décision du tribunal de commerce de Paris. Ensuite parce que tous les contrats d'assurance ne se ressemblent pas. Malgré tout, Philippe Lefebvre, face aux pertes d'exploitation subies par les professionnels du fait de cette pandémie, il va bien falloir trouver un terrain d'entente. Alors, qu'y avait-il dans ce contrat en particulier ?
Alors, ce que dit le tribunal de commerce est clair, le risque de pandémie n'était pas spécifiquement exclu du contrat passé avec le restaurateur et donc, de fait, AXA doit indemniser son client. Quant à la fermeture des établissements, que la décision soit prise par la préfecture de Paris ou par le ministère de la Santé, c'est la même chose, il s'agit d'une fermeture administrative et donc indemnisable. Alors, AXA explique qu'il s'agit d'un dossier mal ficelé par un courtier. Or, Satec, le courtier en question, a pour seul et unique actionnaire le GIE AXA France. Par ailleurs, les restaurateurs réaffirment que, contrairement à ce que laissait entendre AXA, ces indemnisations pour perte d'exploitation ne mettront pas en péril la trésorerie des assureurs. Alain Grégoire est le président de l'UMI Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est 10 milliards d'euros pour la profession. 10 milliards d'euros pour l'ensemble des assureurs, c'est à peine une année de versement de dividendes. C'est à peine 2% de leurs fonds propres. C'est à peine 3% de leurs réserves. Donc non, ils ne couleront pas, ils vivront toujours des jours heureux et ils seront toujours là dans 10 ans, alors que nos petites entreprises, elles, risquent de ne pas être là dans 3 mois.
5 à 6 000 contrats de ce type auraient été souscrits chez AXA, mais aussi chez deux autres assureurs, Generali et Allianz, à qui les restaurateurs pourraient bien demander des comptes par voie de justice dans les tout prochains jours.
Philippe Lefebvre, les assureurs traditionnels se font tirer l'oreille. À l'inverse, les banques et les assurances mutualistes ont déjà commencé à indemniser leurs sociétaires. Contre l'épidémie, cela dit, la meilleure assurance, on le sait, c'est la mise au point d'un vaccin qui prendra, on l'a dit, 12 à 18 mois et le Covid-19 ne sera plus alors un danger, sauf qu'une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet révèle ou confirme qu'un bon quart des Français, un peu plus, 26%, assure déjà qu'ils ne se feront pas vacciner, quoi qu'il arrive. Une peur du vaccin qui reste aussi vivace qu'irrationnelle, Daniel Messager.
C'est un pourcentage qui monte jusqu'à 40% chez les 25-35 ans, avec une attitude de méfiance qu'on retrouve dans la population habituellement sceptique, à savoir plutôt les personnes à faible revenu, 37%, ou les jeunes femmes de 18 à 35 ans. Une des raisons de cette opposition, qui diffère un peu des autres vaccins, serait la rapidité de mise au point. Le professeur Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin, participe au projet Coconel qui alimente ces données.
Le facteur principal de refus, c'est l'idée que le vaccin a été développé très rapidement, peut-être trop rapidement.
Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse travailler dès maintenant sur des explications, une formation de la population française pour expliquer la recherche s'est accélérée, mais que malgré tout, ces vaccins sont développés avec toutes les normes de sécurité et avec une attention toute particulière portée sur la sécurité. Donc certes, on n'a jamais vu des développements vaccinaux aussi rapides, mais ça n'empêche pas d'être extrêmement vigilant et d'avoir des données de sécurité sur un nombre suffisant pour pouvoir donner une autorisation de mise sur le marché et démarrer la vaccination.
Il faudra suivre l'évolution de ces opinions pour renforcer et cibler ensuite l'information à mener sur la nécessité d'un vaccin, vaccin sans lequel aujourd'hui il est difficile d'imaginer une issue à l'épidémie.
Daniel Messager. Et en attendant le vaccin, le respect des règles de sécurité sanitaire continue de s'imposer à tous, même s'il fait beau, que les activités de plein air sont autorisées, mais de façon individuelle ou en gardant ses distances, ce que ne permettent pas, rappelons-le, les sports collectifs. Et pourtant, en ce pont de l'Ascension, beaucoup ont cédé à la tentation et bravé les interdictions, comme ici à Anglette, sur la côte basque, à Maya Cazenave.
Sur l'esplanade de la Barre, près des plages, les barrières qui entouraient le City Stade n'ont pas résisté bien longtemps à la fin du confinement. Le petit terrain synthétique, désormais accessible, est pris d'assaut, notamment par Thomas et ses amis.
Je suis pas sorti de chez moi en 2 mois, donc voilà, ça fait du bien de prendre l'air un peu. Je trouve ça plus logique que de faire, je sais pas moi, un repas ou un apéro entre amis enfermé dans un appartement. Ça, j'ai pas fait, mais je préfère venir faire un foot en plein air.
À quelques mètres de là, une aire de musculation. L'accès y est interdit, mais là aussi, les barrières de protection ont été déplacées. Jean-Loup s'y entraîne tous les soirs.
On a des masques, on a le gel pour les mains, etc. Après, on sait que ouais, on fait quand même une connerie.
Nina, son mari et son fils n'ont pas l'impression de prendre des risques, bien au contraire.
Corona, quel corona ? On n'a pas du tout respecté le confinement, on était dehors tous les jours. Et on a continué à vivre comme si de rien n'était. Mon système immunitaire ne s'est jamais aussi bien porté.
Un petit frisson parcourt tout de même ses sportifs quand une voiture de police s'approche, puis finalement repart, sans réprimande ni contravention. Ils sont compréhensifs, nous dit un des jeunes pratiquants.
En rappelant que les mesures de protection, c'est aussi pour les autres. Un projet de loi du régime de Pékin, hors Covid, qui pourrait relancer les contestations à Hong Kong, loi de sûreté nationale qui restreint les libertés dans le territoire. Les militants pro-démocratie ont appelé de nouveau à manifester ce samedi. Et puis à Karachi, l'hypothèse de la défaillance technique reste la plus probable après le crash d'un Airbus A320 de la compagnie Pakistan Airlines en provenance de Lahore. 97 morts, 2 survivants. L'avion s'est écrasé sur un quartier résidentiel de Karachi où les opérations de sauvetage ont pris fin ce matin, sans que l'on sache toujours s'il y a eu des victimes au sol. Dans un appel de détresse à la tour de contrôle, on entend le pilote déclarer avoir perdu les moteurs. L'invité du samedi 13h, rencontre avec un auteur en lice pour le prix du livre Inter. C'est avec vous bien sûr Eva Bétan, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Julia Deck pour Propriété privée aux éditions de Minuit, où il est question de chats qui rôdent et de voisins pas très sympas. Une comédie cruelle de la promiscuité pavillonnaire, on peut dire ça.
Oui. Peut-être, ça commence par un projet, je ris parce que c'est drôle, ça commence par un projet de meurtre, l'assassinat d'un chat, le chat des voisins, par un couple de quinquagénaires. Comment en sont-ils arrivés là? Ils avaient tout fait comme il faut pourtant, selon leurs critères, sauf erreur, le mot bobo n'est jamais prononcé, accéder à la propriété en proche banlieue, c'est moins cher, mais une banlieue sans les inconvénients de la banlieue, sans mixité, entre soi, un éco-quartier tout neuf, compost et verdure, bonne conscience en sus. À quoi tient l'atmosphère? On sent que c'est pas une bonne idée. Raconté comme cela, ça pourrait être Desperate Housewife, roman de voisinage, matinée de polar parce qu'il n'y a pas qu'un chat qui disparaît, mais ce n'est pas raconté comme cela. Avec une économie de mots, avec de l'ironie, le sens du règlement et des surprises, on va parler de l'écriture Julia Deck parce que ce livre respire le plaisir de faire de la fiction. Mais d'abord, il y a un côté critique sociale, je dirais d'une classe moyenne supérieure qui pense qu'elle fait bien quand elle est écolo et qui en même temps se trompe sur beaucoup de choses. Par exemple, le phénomène de ce qu'on appelle la gentrification.
Bon, c'est vrai, c'est un peu comme le mot bobo, le mot gentrification. J'ai essayé de pas l'employer parce que c'est des termes un peu sociologiques, oui, qu'on entend beaucoup. Mais c'est vrai que le projet du livre est parti autour d'une préoccupation, il me semble un peu contemporaine. Les villes se renouvellent beaucoup, les cœurs de ville deviennent beaucoup plus chers. On se pose la question d'où habiter, on se pose la question d'habiter mieux, d'habiter plus vertueusement. Et parfois, il y a une telle surenchère de comportements qui peuvent apparaître parfois un peu excessifs ou délirants que ça finit par aboutir un petit peu au contraire des intentions qu'on s'était données.
À un moment donné, alors c'est en passant, vous vous moquez d'un des voisins, d'une des voisines qui vote Mélenchon, qui est contre l'injustice et qui se comporte d'une manière atroce. C'est une pique comme ça ou bien c'est un certain électorat auquel vous pensez ?
Alors oui, il y a cette jeune femme qui se targue bien fort de voter très à gauche et qui a pourtant des comportements un petit peu paradoxaux puisqu'elle traite un petit peu tout le monde comme ses domestiques. J'étais pas du tout dans l'intention de stigmatiser un électorat. C'était simplement, en fait, ce qui m'intéressait dans le projet du livre, c'est le décalage entre les paroles et les comportements. Vous avez parlé de l'histoire de tuer le chat. Voilà, c'est, au départ, c'est pas du tout des gens dont vous pouvez imaginer qu'ils projetteraient d'empoisonner un chat. Et la voisine qui vote Mélenchon, bah, là aussi, c'est la question du décalage. A priori, elle se comporte pas du tout en conformité avec les discours en qu'elle tient. Mais voilà, c'est des petites choses qui sont prises à droite à gauche. Moi, je voudrais pas du tout me donner l'impression de me situer en surplomb par rapport à tout ça, parce que c'est des phénomènes qu'on traverse un petit peu tous quand on vit en ville ou en périphérie, et c'est des comportements avec lesquels on a souvent des difficultés à se positionner. Et voilà, on essaye de bien faire et puis en même temps on est pris dans de telles contradictions, une telle complexité entre la nécessité de vouloir vivre de façon plus écologique et puis la nécessité de se déplacer pour aller travailler, que voilà, je ne me situe pas du tout, enfin je ne veux pas donner l'impression de me situer au-dessus, mais c'est vrai que le roman essaye de travailler ces questions-là. Ouais.
Alors, il y a justement ce sens du romanesque, avec une économie de mots, avec aussi de l'ironie, le dérèglement. On a l'impression que vous empruntez à beaucoup de choses, au cinéma américain, au polar, et tout ça avec ironie. Comment ça se construit, cet ensemble ?
C'est vrai que souvent, les images mentales que j'ai en écrivant, c'est souvent des images issues de films ou de séries et parfois des choses que j'ai vues il y a très très longtemps qui m'ont vraiment frappé l'imagination quand j'étais très jeune parfois. Donc ça c'est vraiment des images mentales sur lesquelles je m'appuie, notamment les images des séries, des banlieues dans les séries américaines, parce que finalement la banlieue elle est assez peu filmé, il me semble, en France. Donc voilà, j'avais un peu des flashs comme ça. Et la question de l'ironie, bah évidemment, dès qu'on parle de bobo, de gentrification, elle arrive fatalement assez vite. Mais là, je dirais que j'essaye d'en faire plutôt moins que trop, parce que oui, c'est très facile. Enfin, les composts, les panneaux solaires, enfin voilà, on voit très vite où pourrait pointer l'ironie. Et enfin, en tout cas, dans les différences entre les comportements et les discours. Mais voilà, je sais que j'ai aussi cette tendance un peu, cette pente un peu grinçante. Donc j'ai tendance dans les premières versions à me laisser aller, à voir ce que ça donne, et puis à gommer finalement. Donc ça donne une écriture peut-être plus resserrée à la fin, parce que oui, j'essaye de gommer à chaque fois que j'ai l'impression d'en faire trop ou de dire des choses trop évidentes.
Merci beaucoup, Julia Deck. Ça s'appelle Propriété privée, donc paru aux éditions de Minuit. Julia Deck en lice pour le prix du livre Inter, et merci à vous aussi.